Rock en scène 2007 au domaine national de Saint-Cloud les 24, 25 et 26 août avec RadioFrance.fr. Pour assister au concert de Björk, Arcade Fire, les Rita Mitsuko, Amy Winehouse, Kings of Leon, The Hive et bien d'autres artistes, jouez avec nous. Envoyez Rock par SMS au 6230 pour gagner des places et profiter du meilleur du rock d'aujourd'hui. Jeu valable jusqu'au 31 mai, 35 centimes d'euros par envoi plus coût d'un SMS. Rock en scène 2007, pour tout savoir, RadioFrance.fr.
France Inter,
franceinter.com.
Bonjour à tous, bienvenue dans le service public, bonjour Yves.
Bonjour Isabelle.
Ils s'appellent Aminata, Roger ou Karine. Ils sont en ce moment des milliers à Paris, à vivre dans ces hôtels meublés qui, malheureusement, avaient fait la une de l'actualité lors de l'incendie de l'hôtel Paris Opéra, qui avait fait, rappelez-vous, 25 morts. Alors ces hôtels, bien souvent insalubres, où les familles vivent dans des chambres très exiguës, de 10 à 20 mètres carrés, entassées avec leurs enfants, ces hôtels sont souvent sans chauffage, avec interdiction de faire la cuisine. Et le comble de cette situation inacceptable est que ce sont les pouvoirs publics qui paient pour ces chambres à des tarifs prohibitifs. En l'occurrence, la mairie de Paris se fait ainsi complice de ses propriétaires d'hôtels qui abusent et profitent de situations de détresse. Ce scandale, donc, des hôtels meublés, a même fait récemment l'objet de remontrances de la part de la Cour des comptes qui dénonce les défaillances d'un État qui préfère souvent financer ces hôtels insalubres plutôt que de construire des logements sociaux.
Voilà, pour résumer la situation, on pourrait citer Patrick Doutreline, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, pour qui les pouvoirs publics engraissent des marchands de sommeil en payant des chambres insalubres pour loger des familles entières. La plupart de ces établissements pratiquent des prix prohibitifs et se maintiennent grâce aux subsides de l'État. C'est un gouffre financier, une faute économique, sociale et humaine, conclut Patrick Doutreline. Effectivement, jusqu'à 3000 euros par mois pour deux chambres d'hôtel sans chauffage où s'entassent trois enfants et leurs parents. On a du mal à comprendre que les services sociaux de l'État, de la ville, du département acceptent de payer tout ou partie d'un tel loyer. 10 à 12 000 personnes sont ainsi logées en permanence à Paris, où la ville dépense, bon an mal an, pour ça 12 millions d'euros. Sans doute n'y a-t-il pas à court terme d'autres solutions, mais fait-on vraiment le nécessaire pour sortir un jour de cette impasse? En attendant, de vrais négriers prospèrent au détriment des contribuables et surtout des sans-logis.
Alors pour en parler aujourd'hui, bien sûr toujours au standard de service public, vous pouvez prendre la parole au 01 45 24 7000. Je vous présente nos invités. Claire Lévy-Roland, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'une somme, vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Paris 8 Saint-Denis et vous êtes également chercheur au CNRS. Vous êtes spécialisé dans l'histoire du logement populaire avec ce livre qui est dans l'actualité, Une chambre en ville, qui est sorti récemment. Et vous êtes chercheur effectivement sur tout ce qui concerne l'habitat et le logement populaire. On va en revenir effectivement sur l'historique avec vous. Stéphanie Parigi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale du SAMU Social, qui avait été créé en 93 par Xavier Emmanuelli. Vous succédez à Dominique Versini, donc. Jean-Yves Manot est également notre invité, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes adjoint au maire de Paris, responsable de l'habitat et du logement. Alors effectivement, ce matin, on aimerait peut-être illustrer tout de suite ce thème, ce sujet brûlant dont nous allons parler avec le reportage d'Antoine Nys.
Voilà, puis nous aurons en ligne également le directeur d'une association qui gère des hôtels sociaux sur Paris, Louis Bray. Alors pour illustrer effectivement ce dont nous parlons ce matin, ce reportage d'Antoine Nys qui est allé dans un hôtel meublé situé dans le 11e arrondissement de Paris. Les conditions d'accueil sont loin d'être celles qu'on pourrait attendre d'un hôtel classique. Là-bas, 14 familles sont logées, qui toutes souhaiteraient d'ailleurs déménager, mais pour l'instant, rien ne leur est proposé. Leurs dossiers sont défendus par l'association Droit au Logement, le DAL, et c'est avec le président du DAL, Jean-Baptiste Hérault, qu'Antoine Nys a donc fait la visite. Écoutez.
Là, on voit bien qu'on est dans un hôtel très particulier, puisque c'est un hôtel, il n'y a pas de loge. Il y a juste un homme de ménage qui fait l'escalier, qui vide les poubelles. Encore, il ne vide pas toutes les poubelles, parce que dans la cour intérieure du bâtiment, elle est remplie d'immondices et de gravats.
Allons voir les poubelles.
C'est marqué interdit d'entrée.
Ah oui, d'accord. D'accord. Quand on ouvre la porte, on voit.
Ouais, c'est des immondices et des gravats qui sont là depuis des mois.
Bonjour, monsieur.
Il y a un monsieur qui travaille, là.
Vous fermez la porte ?
Faut qu'on fasse ça, monsieur.
Hein ?
Il faut
qu'on fasse
comme nous.
Non, mais on est...
Non, on est...
D'accord.
n'est pas
d'accord, mais ça fait rien, on monte quand même.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Merci de nous recevoir chez vous.
Également. Je suis chez moi, 9 mètres carrés.
Et comment vous faites pour vous organiser le soir?
Le soir, vous voyez deux canapés.
Moi, deux canapés vides?
Oui, oui. Nous, on paye à 1400 euros par mois. Et ma participation, c'est 700 euros. Le reste, c'est d'aide de l'enfance qui le complète.
Et combien vous gagnez par mois, madame?
Moi, je gagne 1206 euros par mois.
Voilà, donc on vous laisse 500 euros pour vivre.
Oui, avec deux enfants.
Avec deux enfants.
Oui.
Donc quel âge vos enfants?
9 ans et 12 ans.
Vous faites quoi dans la vie, madame?
Moi, je suis assistante de vie.
Assistante de vie?
Oui, auprès des personnes âgées.
Vous avez fait des demandes de logement?
Oui, je renouvelle chaque année aussi.
Et alors?
Rien. Ben moi, je fais ce qu'il y a à faire, parce que je travaille, j'ai un contrat de CDI, je suis capable de payer les loyers, et je vois pas pourquoi ils me donnent pas un logement comme les autres familles, quoi.
Nous avons pris contact avec la ville de Paris, nous avons fait de nombreuses actions collectives, de manifestations, et nous avons amené la ville de Paris à mettre en place un nouveau dispositif, qui devrait être lancé dans les prochains jours, on espère, qui consiste à louer des logements dans le parc locatif privé, puisqu'il n'y a pas assez de place dans les logements sociaux, plutôt que de financer ces chambres d'hôtel, qui sont en fait des hôtels de marchands de sommeil, qui ont trouvé un vrai filon pour s'enrichir, alors que cette maman travaille, elle gagne sa vie, elle est prête à payer un loyer normal.
Alors là, on est dans l'escalier, on rencontre vos voisines. Bonjour.
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 C'est une voisine à moi, elle est au cinquième étage. Ouais. Elle a avec vous avez combien d'enfants?
5 enfants.
Vous êtes là depuis longtemps, madame?
Depuis 8 ans, je suis là.
Bonjour.
Je crois que j'ai mis des serviettes au pied de la porte.
Et rentre les chéris à la maison.
Ah, des souris.
Même le cafard, on a beaucoup de cafards. Hein. Mmh. Même l'électricité, regarde. Regarde, les enfants qui touchent pas.
La prise, elle est sortie un peu du mur.
À chaque fois, il faut faire quand même les travaux pour faire moins nettoyer un peu les chambres. Et ben, ils s'en foutent. Lui, il s'en fout de nous. Hein.
Combien vous payez pour les trois chambres hein?
3700 euros. 3700 euros par mois.
Vous travaillez, vous, monsieur?
Oui, je travaille dans la sécurité, je gagne 1000 euros par mois.
Je travaille dans le ménage, je gagne 300 euros par mois.
On paye 1000 euros. 1000 euros, 800 euros dans ma poche et le reste la mairie.
Et donc il reste 200 euros, 300 euros pour vivre.
Comment il fait vivre?
Avec 30 ans, comment vivre, monsieur? C'est trop cher, monsieur, pour la mairie.
La ville de Paris a dépensé 12 millions d'euros en 2005 en frais d'hôtel. Voilà où on en est. En France, on préfère enrichir des marchands de sommeil et loger les gens dans des conditions terribles avec enfants. Est-ce que vous accepteriez d'aller en banlieue?
Oui, n'importe où.
Oui, oui.
Parce que souvent, je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais souvent j'entends les gens, mais c'est des gens qui ne veulent pas aller en banlieue, ils restent à Paris.
Non,
ça dépend à quelle heure ils bossent, quoi. Parce que bon, le problème, c'est que quand on a un emploi stable et qu'on bosse à 5h du mat, voilà. Comment on fait? Là, toutes les gens qui sont là, c'est ceux qui se lèvent tôt le matin, qui vont nettoyer nos bureaux, qui vont construire nos immeubles, qui vont nettoyer la merde quotidienne. Donc, voilà, c'est là, ceux-là, il faut les loger.
Jean-Yves Manot, on a l'impression que c'est la mairie de Paris qui est directement mise en cause dans ce reportage. Pourquoi est-ce que vous financez des hôtels aussi insalubres?
Oui, il y a eu des mots forts employés, et très honnêtement, je ne peux pas tout à fait laisser passer.
12 millions d'euros dans ces loyers par an, en 2005.
12 millions d'euros, effectivement. Mais d'abord, la ville n'est pas complice d'un système. La ville subit. La ville de Paris subit le fait qu'il y a des gens dans la rue, qu'il y a des familles qui, à 17h le soir, vous appellent avec des enfants dans la rue, que vous avez l'obligation de les loger, du moins qu'il y a des enfants. C'est la responsabilité du département, la ville assume. À partir du moment où il n'y a pas d'autre possibilité pour trouver un toit, de proposer un certain nombre de places, nous le faisons. Néanmoins, depuis un certain nombre d'années, la ville de Paris a pris des mesures extrêmement importantes de maîtrise de l'ensemble de la qualité de ses hôtels, de maîtrise du flux, de l'assurance que les conditions de sécurité pourront être rendues tout à fait correctes. Et le problème de fond se pose, c'est oui ou non, y a-t-il assez de logements à Paris et en Ile-de-France? La réponse est non. Et comme on sait aujourd'hui que la ville de Paris est très sensibilisée à ce sujet, plus nous créons de places, plus nous avons de demandes. faudra bien qu'un jour le problème soit posé sur l'ensemble de la région Île-de-France pour que la solidarité indispensable s'exerce sur ce territoire-là et non pas dans le territoire.
Vous êtes responsable du logement à Paris, donc justement pourquoi ne pas favoriser le logement social? Et pourquoi,
madame,
pourquoi faire perdurer ce système?
30 000 logements sociaux financés sous la mandature de Bertrand Delanoë, ça ne s'est jamais vu. Ça ne s'est jamais vu. Alors c'est pas suffisant, il y a 102 000 demandeurs, 45 000 nouveaux inscrits par an. La ville est une ville enserrée dans le périphérique. Nous inventons tout ce qui est possible dans la matière. Nous rachetons, nous démolissons, nous reconstruisons. Nous prenons des initiatives diverses pour tous les publics. Nous créons 12 à 15 résidences sociales par an pour accueillir ce type de famille. Voilà les réalités, mais peut-être ceci aurait été entamé avant nous.
Parce qu'on comprend très bien, Jean-Yves Benoît, c'est au-delà du logement social, on comprend bien qu'il faut du temps pour faire des logements sociaux, mais pourquoi ne pas privilégier des logements d'urgence, des résidences sociales, des foyers des... Il y a des centres d'hébergement, par exemple, pour les sans-logis à Paris qui sont vides, souvent.
Des centres vides, à ma connaissance, ça n'existe pas. Je vais vous donner un exemple précis.
Si, on sait bien que les centres d'accueil d'hébergement pour les sans-logis ne sont pas pleins.
C'est souvent les saisons. Oui. Ils en ouvront. Donc, a priori, c'est qu'ici, nous en ouvrons, il y a des besoins. Nous avons, suite aux tentes, cédé provisoirement un certain nombre de bâtiments que nous avions achetés pour faire du logement social de résidence étudiante, pour faire du logement pour accueillir un certain nombre d'urgences. Hier matin, nous allions voir un autre immeuble que nous allons mettre aussi à disposition des structures associatives pour permettre le relogement d'urgence à un certain nombre de familles. Alors oui, on continue à développer ce type de structure. Je vous dis, nous développons 14 à 15 résidences sociales, pensions de famille, maisons relais, tout ce que vous voulez, avec des systèmes adaptés aux différents publics, car nous avons des publics différents. Voilà l'énergie que nous faisons, et nous mettons en place un certain nombre de structures de maîtrise des hôtels meublés, parce que le sujet, c'est les hôtels meublés. Je rappelle une chose simple. La préfecture de police est responsable de la sécurité des hôtels meublés. Pendant des années, il n'y a pas eu de dialogue entre la préfecture de police et la ville de Paris. Nous avons souhaité, nous, ville de Paris, mettre en place un travail en commun avec la préfecture de police pour mettre en place un certain nombre de critères qui font que, oui ou non, un hôtel est salubre ou insalubre.
Est-ce que le SAMU social a le même point de vue? Est-ce que vous analysez la situation de la même manière?
Alors nous, on agit un petit peu différent puisque nous nous occupons des familles et des personnes isolées en situation d'urgence. Donc ils n'ont ni revenus, ni logement, qui sont en situation d'urgence. Ça peut être une femme battue avec ses enfants qui débarque vers le Nord. Ça peut être une personne sans papier avec sa famille qui vit depuis des années à Paris et qui survit à Paris. Donc on a à prendre en charge toute personne qui n'a pas d'autre solution que celle d'appeler le 115 ou de contacter le SAMU social. Donc c'est déjà une catégorie de population sans droit acquis et ouvert. Ils peuvent l'être par ailleurs, mais pour l'instant ils ne le sont pas. On est confronté depuis 2000 à une hémorragie, hein, à un nombre de familles exponentiel qui ne fait que se développer en grande difficulté, majoritairement sans droit, mais pas que, puisque nous hébergeons quotidiennement 1000 personnes en famille qui ont des papiers, qui sont régularisés et qui sont en difficulté, ou elles ont été expulsées d'un logement ou de chez un tiers et à 3h du matin, elles n'ont pas d'autre choix.
Dans quelles conditions?
Alors justement, nous disposons d'un centre d'hébergement d'urgence pour familles de 40 places et nous hébergeons et nous finançons quotidiennement un peu plus de 7000 unités.
Donc c'est parfois vous êtes contraint de les loger dans des hôtels
bien
comme
sûr.
Celui.
Alors je ne vous cache pas que depuis l'incendie du Paris Opéra qui a été un drame, hein, en interne chez nous, on avait logé dans cet hôtel qui n'était pas classé défavorable un certain nombre de familles, c'est important de le dire. Ça aurait pu être plus grave ailleurs. Ça a été non pas un révélateur parce que tout le monde en interne savait, connaissait et connaît les risques qu'il prend. Vous hébergez des personnes très désocialisées, des personnes que vous ne connaissez pas, puisque vous les rencontrez via 115, dans des lieux d'hébergement où la surveillance est limitée à un hôtel commercial, à celle que propose un hôtel commercial, avec tous les risques que ça comporte. Donc c'était un choc, mais c'était un choc et un risque que nous connaissions à l'époque. Donc il a fallu réagir, on a réagi très rapidement. Le SAMU social est un mouvement d'intérêt public, la ville y participe, le département y participe, l'État y participe, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte, étant opérateur de terrain, que les instances ne communiquaient pas forcément entre elles, et qu'il a fallu instaurer un travail, une mise à plat des dispositifs, en tenant compte du flux qui est conséquent. Donc évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi, parce que moi, en tant que directrice générale, ma priorité, c'est une famille à 3h du matin en urgence, je dois la loger le moins mal possible. Donc on a mis en place un dispositif en interne de contrôle, de visite, mais au-delà des aspects sécurité, se pose la question du suivi, de l'alimentation des familles, du suivi social de l'endroit où on les héberge. Quand vous les hébergez dans les villes de banlieue, elles sortent du dispositif parisien, le suivi social n'est pas le même. gros problème de scolarisation des enfants. Donc tout ça, c'est une réalité qui est...
Alors, une autre solution, c'est celle que développe Louis Bray, qui est avec nous au téléphone. Louis Bray, directeur d'une association qui gère des hôtels sociaux. Bonjour.
Bonjour.
Hein, donc vous achetez des établissements, vous transformez en hôtels sociaux. C'est de l'hôtellerie sociale subventionnée par les pouvoirs publics, c'est ça?
Voilà, nous avons acheté des fonds de commerce dans les années 90 qui ont été réhabilités et dans lesquels nous logeons des personnes isolées, sans limitation de durée. C'est-à-dire qu'en fait, nous, par rapport à ce qui a été dit avant, nous n'avons pas de service d'urgence. Les gens qui sont là sont des gens qui restent souvent pendant des périodes importantes et pour lesquels la chambre d'hôtel est un substitut au logement de façon généralement assez durable. Parce que ce sont des personnes isolées. Et
éventuellement des personnes qui sont passées avant dans un hôtel meublé.
Fréquemment, oui, c'est fréquemment le cas.
Et comment vous faites justement pour ne pas avoir ces problèmes d'insalubrité?
Nous avons bénéficié de subventions assez importantes en investissement et nous bénéficions de subventions d'exploitation qui nous permettent de, pas suffisantes pour, à notre goût, pour avoir vraiment une qualité parfaite, mais qui nous permettent tout de même d'avoir des hôtels parfaitement aux normes en matière de sécurité et dans lesquels toutes les chambres sont équipées de cuisinettes. Mmh. C'est un peu ça la charnière entre la chambre d'hôtel classique et la chambre d'hôtel dans laquelle on peut s'installer et rester un peu, c'est la présence d'une cuisinette.
Et c'est pas le même prix non plus, hein, chez vous.
Alors nous, les chambres sont effectivement moins chères que sur le marché, mais nos occupants payent tout de même aux alentours de 380 euros de redevance mensuelle. C'est une redevance donc qui inclut tout, bien sûr, comparable à celle d'un hôtel de tourisme. Et elle est solvabilisée par l'aide au logement. C'est-à-dire qu'en fait, une grande partie de nos occupants sont évanistes. Mmh. Et pour eux, il leur reste environ, une fois leur hébergement payé, toute charge comprise, environ 8 euros par jour. Ce qui est forcément trop peu, mais permet tout de même de rebondir et de rester dans des conditions de décence.
C'est une sorte de HLM en hôtel, quoi, finalement.
Voilà, c'est une sorte d'hébergement, puisque cette fois-ci, on n'est plus dans la notion de logement, précisément, mais à destination sociale, oui.
On reviendra sur la question du prix. Restons peut-être avec vous sur un éclairage historique. Claire-Lévy-Vrelan, je rappelle que vous êtes donc l'auteur d'un ouvrage qui retrace en fait l'historique du logement populaire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2007, ces familles qui devraient loger dans ces hôtels uniquement pour des situations d'urgence, pour quelques jours ou quelques semaines, finalement restent des années, ce qui ne se produisait pas forcément avant, il y a 50 ou 100 ans.
C'est ce qu'on appelait les garnis, autrefois.
Oui, c'est ça. Je vous remercie. Je voudrais saluer Louis Bray, que je connais bien, et je peux en effet témoigner de la qualité des prestations et de la manière dont il gère ses hôtels, puisque je les ai visités, j'en connais un certain nombre. Je pense qu'en effet, c'est une des bonnes manières de faire. Avant, si vous permettez, je voudrais quand même citer mon co-auteur. Mm-hmm. Ce livre, je ne l'ai pas écrit seul, je l'ai écrit avec Alain Faure, qui est historien et qui a traité toute la partie du 19e siècle jusqu'au 1er 20e siècle, qui est une partie importante. Et qui a un petit peu inventé, enfin on a inventé ensemble ce terme de système du garni. Je crois qu'aujourd'hui le système du garni arrive à sa fin pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir. Mais moi j'aimerais revenir sur effectivement ces termes très très forts que vous avez employés au début de l'émission, négrier, marchand de sommeil, scandale. Alors pour démêler un peu les fils de cette, représentation excessivement scandalisante, enfin, des hôtels, je pense que d'abord il faut un petit peu revenir sur le passé. Je voudrais juste vous citer très rapidement quelques lignes et on va essayer de trouver ensemble à quelle époque elle s'adresse, elle se réfère. Alors voilà, l'assistante sociale nous cite le cas d'une famille de 5 personnes vivant dans 7 mètres carrés. Les enfants perpétuellement malades, l'un partant au sana quand l'autre en revenait, la mère internée à plusieurs reprises, le père souffrant d'un ulcère à l'estomac. Les services sociaux, a-t-elle calculé, dépensaient pour eux plus d'1 million anciens par an. On parle de francs, bien sûr. Leur payer entièrement le loyer d'un logement confortable eût représenté une sérieuse économie. Voilà.
C'était au siècle dernier.
Alors, c'était pas au siècle dernier, mais c'est juste après-guerre. Mmh. Voilà. Donc, oui, et on peut...
Les années 50.
Oui, si vous voulez, sur le 20e siècle. On peut trouver des citations du même type sous la plume d'Henri Sellier ou d'autres qui décrivent la même chose. Alors moi, je voudrais
vous êtes en train de dire que les hôtels meublés, ça a toujours existé. Voilà. C'est une nécessité sociale.
Non,
ça a toujours
ce qui a toujours existé, c'est que ce soit qu'il y a un paradoxe scandaleux entre le prix que ça coûte pour l'habitant et la qualité d'usage. Alors sur cette histoire du coût, moi je voudrais quand même dire que on est maintenant dans un système où des dépenses sociales et très sociales recouvrent de manière apparemment scandaleuse, je suis tout à fait d'accord, des dépenses qui ne sont pas faites ailleurs. On n'a plus de politique du logement aujourd'hui depuis quelques années au moins. Le scandale des hôtels, c'est l'absence de possibilité d'en sortir. Voilà. Alors, bon, la nouveauté pour reprendre...
C'est surtout les coûts pratiqués par ces marchands de sommeil. Alors, je reprends le mot, parce que 3000 euros pour deux chambres...
Expliquons-nous aussi sur le terme de marchand de sommeil. Je pense qu'il y a...
Et ce qui choque, je le redis, hein, c'est que les services publics, les services sociaux payent ces gens-là.
Bien sûr. Ouais. Mais écoutez, on va pas supprimer les gens dont le logement social ne veut pas. Hein. Il faut bien les loger, comme disait madame tout à l'heure, et y compris, ça a un coût pour la collectivité, mais ça aussi... un bénéfice pour la collectivité, et peut-être je pourrais m'en expliquer tout à l'heure. Moi, je récuse le terme marchand de sommeil pour 85% des hôtels. L'atelier parisien d'urbanisme a fait des études qu'on a nous-mêmes confirmées. Le secteur n'a jamais été majoritairement un secteur scandaleux, pour reprendre votre terme. Sulfureux peut-être, on en a beaucoup parlé au 19e siècle et aussi au 20e. C'est un lieu de passage, c'est un lieu de transit, comme disait M. Manot tout à l'heure avant l'émission, c'est un lieu d'accueil qui fait partie de l'urbanité de la capitale. Il faut quand même imaginer que dans les années 30, un Parisien sur 10 logeait à l'hôtel. Et c'était pas que des très pauvres, c'était des gens qui travaillaient... c'était des ouvriers, c'était des gens de passage, mais la grande différence avec aujourd'hui, c'est que l'hôtel était pour la très grande majorité d'entre eux un tremplin, un lieu de passage pour l'accès à la ville. Aujourd'hui, on est dans un système qui est complètement bloqué, d'où effectivement le scandale, mais encore une fois, le scandale, il n'est pas dans les hôtels, et il n'est pas chez ces hôteliers qu'on charge de tous les mots.
Ça ne concerne pas tous les hôteliers, bien
entendu. Bien sûr.
On est là pour parler des abus.
Juste, peut-être pas seulement des abus, parce que ce secteur est un secteur utile, et moi, je pense que la collectivité parisienne a intérêt, en effet, à réhabiliter ce secteur avec les parties prenantes. Alors, si vous permettez encore juste un mot, c'est un secteur un petit peu complexe, il n'a jamais bénéficié de subventions publiques jusqu'à présent, et c'est la grande nouveauté. La grande nouveauté, c'est aussi, comme le disait M. Manot, un partenariat avec la préfecture de police, avec les services sociaux, avec la ville et avec les hôteliers. Mais il faut bien voir que ce système, c'est des propriétaires de murs, qui sont en général des petits propriétaires qui n'ont pas des revenus extraordinaires, des propriétaires du fonds de commerce, qui font ce qu'ils peuvent en gérant des impayés énormes. Donc moi, je récuse le terme marchand de sommeil pour 85% du parc des hôtels.
Ce que vous dites fait bien sûr réagir nos auditeurs, on les entendra dans un petit instant, juste après R.
Service public, Isabelle Giordano, Île-de-Camp, 01 45 24 7000. I'm
Et tout de suite après R, une question au standard de service public. André à Béziers, bonjour.
Oui, bonjour. Voilà, d'abord, merci pour toutes les émissions du matin qui ont toujours des thèmes très intéressants, qui permettent de réfléchir et de réagir. Et en ce qui concerne l'émission de ce matin, c'est vrai que je suis toujours un petit peu énervée lorsque j'entends les prix. J'entends bien la dame qui dit que ce ne sont pas des marchands de sommeil, etc. J'entends les prix, 3000 euros pour ce qui est proposé. Alors moi, je me dis, mais c'est peut-être pas faisable, mais est-ce qu'il ne serait pas possible, puisque en Paris, on dit que les loyers sont chers, mais tout de même, entre 1500 et 2000 euros, par exemple, on doit pouvoir trouver des appartements, plutôt que de loger ces familles dans des hôtels où elles s'entassent et qui sont insalubres et où elles ne peuvent pas cuisiner, ne pourrait-on, et pour moins cher, puisqu'avec 1500, 2000 euros, on économise déjà par rapport aux 3000, est-ce qu'on ne pourrait pas les loger dans des appartements, et puisque ce serait ou la mairie ou l'État, enfin, qui paie, donc les propriétaires sont assurés qu'ils n'auraient pas d'impayés, et ça serait quand même beaucoup plus simple, beaucoup moins cher, et puis beaucoup plus valorisant pour ces familles.
C'est effectivement la question que tout le monde se pose. Stéphanie Parigi, du SAMU Social.
Alors justement, nous on s'est attachés depuis 5 ans, hein, très nettement, à essayer de trouver des alternatives à l'hébergement hôtelier. Alors, sous toute forme, simplement, il manquait un cadre juridique, qui existe aujourd'hui, puisque les résidences hôtelières à vocation sociale vont pouvoir être mises en place. Ça va nous permettre, nous, de travailler sur des programmes travaux et des programmes de réhabilitation qui tiennent compte des difficultés des familles.
C'est l'hôtellerie sociale de Louvray.
Tout à fait, mais qui permettent à d'autres opérateurs, notamment privés, de pouvoir gérer ce type de dispositif et nous d'être locataires, en fait, sur des bases beaucoup plus saines en termes d'aménagement. Ça va nous permettre aussi de réguler les tarifs. Néanmoins, le coût du foncier à Paris fait que malgré toutes les études qui ont pu être faites autour de la réhabilitation, qui est très souvent lourde, montre qu'on sera de toute façon pour Paris entre 17 et 20 euros la nuit par personne, ce qui est globalement à peu près ce qu'on paye aujourd'hui.
Et à peu près, on va dire que c'est les familles en banlieue.
Alors justement,
ou en province.
C'est nous, 60% des familles que nous hébergeons à l'hôtel le sont en petite et grande couronne pour des questions de tarifs, puisqu'on a des limites. On est un groupement d'intérêt public, on a des limites budgétaires qui sont conséquentes néanmoins, parce que c'est 70% du budget du SAMU social aujourd'hui, les limites d'hôtel, donc c'est conséquent. Ces limites nous obligent à faire attention, bien évidemment, à la gestion de nos structures. Simplement, le problème des départements limitrophes, c'est qu'on bute sur des problèmes de suivi sociaux, sur des problèmes de politique d'accompagnement social un peu différentes, et sur le fait que les familles que moi j'envoie à Paris ou en petite couronne en banlieue n'ont pas forcément le même traitement social, simplement parce que pour l'instant, il n'y a pas encore d'harmonisation des pratiques à Paris en banlieue.
Et est-ce qu'on pourrait comprendre aussi pourquoi c'est si cher? Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dans ces 3000 euros pour les chambres où bien souvent il n'y a même pas le chauffage à payer, puisqu'il n'y a pas de chauffage, Jean-Yves Manot? Pourquoi c'est si cher?
Il n'y a rien à comprendre. Il y a un marché, il y a une demande de force, et il y a des prestations et des gens qui, effectivement, profitent d'une certaine situation de pénurie.
C'est la loi
de la situation de pénurie, on n'en a pas parlé. Mais enfin, les demandeurs d'asile, les déboutés du droit d'asile à Paris, on a fermé son gaz à certaines époques. Est-ce que vous croyez qu'on a résolu les problèmes? Aujourd'hui, ils sont sur la région parisienne. C'est une réalité qui embouteille tout le système. Et pourtant, ces gens sont là. Et je pense que la France a le devoir de traiter ces gens-là correctement.
Précisons, Jean-Yves Manot, que vous lancez un programme à Paris, un appel au privé, finalement, pour loger ces familles-là dans le parc privé.
Nous lançons effectivement une opération novatrice où la ville de Paris, en lien avec les associations, garantit un loyer de 16,35 € au mètre carré, avec un bail de 3 ans, avec le loyer payé du premier jour au dernier jour du bail, un suivi associatif permanent, et en même temps une remise en état du logement à la fin du bail, ceci servant de tremplin et de sas pour une famille sortant d'hôtel meublé, vis-à-vis d'un logement social pérenne, car nous estimons aussi qu'une famille qui sort d'hôtel meublé a bien souvent besoin d'un suivi associatif avant d'intégrer de façon autonome un logement. Si tous les propriétaires qui veulent effectivement participer à cette ce système novateur, ils peuvent appeler 3975 à la ville de Paris, on leur donnera tous les éléments d'information.
On va y revenir.
Ça fait partie des solutions et on va continuer d'évoquer d'autres pistes et d'autres solutions après 10 heures.
Service public sur le scandale des hôtels meublés à Paris ou ailleurs, mais c'est surtout à Paris que le problème se pose évidemment. Nos invités, Claire Lévy-Vroëlan, sociologue, co-auteur d'un livre intitulé « Une chambre en ville » qui vient de paraître aux éditions Créafis, Stéphanie Parigi, directrice générale du SAMU social, Jean-Yves Manot, adjointe au maire de Paris chargé de l'habitat et du logement. Au téléphone avec nous, Louis Bray, directeur d'une association qui gère des hôtels sociaux. Je voudrais citer, pour reprendre le débat, Claire Lévy-Breland, une conclusion de votre livre. Hein. Vous dites « Maintenus en vie comme des substituts dérisoires au logement social déficient ou transformés en résidence sociale, les hôtels meublés, dont on parle ce matin, ce qu'on appelait les garnis autrefois, sont aujourd'hui loin de leur rôle ancien d'habitat de transition entre migration et intégration en ville. Leur survivance, qui est un signe de la misère des temps, c'est aussi le gage du maintien des plus pauvres dans la ville. » Autrement dit, ces hôtels meublés sont nécessaires,
oui.
Bien que certains d'entre eux soient dans un état dont on a parlé. C'est nécessaire, c'est un lien social, c'est une urgence.
Mais écoutez, bien sûr, ils ne peuvent plus jouer le rôle qu'ils jouaient autrefois pour les raisons que vous avez bien voulu évoquer en me citant. Il n'y a pas suffisamment de logements à la sortie. Hein. Alors, tout à l'heure, vous disiez Aminata, Roger, Karim, en présentant l'émission. Effectivement, c'est bien, je trouve, de revenir sur cette diversité de l'occupation des hôtels. Il n'y a pas que des familles dans les hôtels, Dieu merci. Parce que là est le scandale. Vivre en famille à l'hôtel, c'est proprement scandaleux aujourd'hui. Ce sur quoi aussi je voudrais revenir, c'est, vous avez dit...
Il n'y a pas que des familles,
c'est envoyer... Alors, il n'y a pas que des familles, il y a 1000 enfants en famille à Paris, il y en aurait un, que ça serait un de trop. Mais 50% de la population, c'est des hommes isolés. Alors, Karim, ça peut être effectivement le... travailleur migrant vieillissant qui habite à l'hôtel et qui est très content d'habiter à l'hôtel dans un quartier qu'il connaît, avec un environnement qui lui est familier dans lequel il se repère. Et soit dit en passant, pour les promoteurs de la mixité sociale, le fait que des hôtels avec leur population hétérogène, populaire, migrante, il n'y a pas plus de la moitié des habitants des hôtels qui sont des étrangers aujourd'hui. Il ne faut pas non plus dire... L'hôtel, c'est des familles africaines.
On a bien compris que c'était un passage obligé, une soupape sociale, ces hôtels meublés. Hein. Le problème, ce qu'on met en exergue ce matin, c'est souvent leur insalubrité, alors, la dangerosité, et le fait que les pouvoirs publics payent.
Voilà. Et il faut le préciser, cette insalubrité, elle est nouvelle, elle n'existait pas forcément dans les années 30 ou 50.
Voilà. Alors, d'abord, je voudrais revenir sur le prix, parce qu'il faudrait peut-être démystifier un petit peu ces scandales que vous pointez. C'est pas 3000 euros en moyenne le prix, hein. C'est entre 500 et 800, ce qui est déjà trop, bien entendu, pour quelques mètres carrés. Mais, voilà.
En même temps, le fait qu'il en existe à 3000 euros, c'est alors, scandaleux.
Non, mais bien sûr, mais il y a toujours... Mais vous savez, dans le parc privé, il y a des scandales autrement plus... ou tout aussi révoltants, hein, qui ne sont pas aujourd'hui sous les feux des médias, mais qui existent tout autant. Hein. On veut opposer les locataires aux propriétaires. Bon, pourquoi pas, mais tout ça, c'est des épiphénomènes. Il faut discuter du fond, c'est-à-dire... Où on loge qui et qui a droit à la ville. C'est pour ça que tout à l'heure vous disiez on va envoyer ces familles en banlieue. Pourquoi on ne les envoie pas en banlieue? Moi ça me choque de dire envoyer les familles en banlieue. Vous savez, la possibilité d'habiter en centre-ville. D'habiter en centre-ville, elle est pour tout le monde. Quand la ville de Paris attribue des logements sociaux, elle a un contingent pour les gens qui travaillent à Paris, pour les fonctionnaires municipaux, et c'est logique. Pour les infirmiers, pour les éboueurs, pour les gens qui nettoient, qui prennent soin de la ville dans laquelle...
Mais
c'est pas seulement...
Mais la dame du reportage était d'accord pour aller en banlieue, c'est pas un problème.
C'est ça. Non, mais
ou en province, d'ailleurs.
Il s'agit pas de dire que la banlieue, c'est horrible. Moi-même, j'y habite et je trouve ça très bien. Mais il s'agit de ne pas faire de prescription, si vous voulez, en disant quand même le choix, même s'il est limité, de sa résidence, ça devrait rester comme le droit à la vie, quelque chose d'important.
On va continuer de balayer un petit peu toutes les solutions existantes. On a parlé donc de l'hôtellerie sociale, on va y revenir tout à l'heure.
La construction de logements sociaux, on a parlé
de logements sociaux, mais ça prend du temps. L'appel aux loueurs privés, qu'a lancé Jean-Yves Manot tout à l'heure. Et puis, Eric est au téléphone, il nous appelle de l'Oise et voudrait lui aussi nous rappeler un certain nombre de choses. Bonjour Eric.
Bonjour, écoutez, d'abord merci pour la qualité de vos émissions parce que ça fait du bien. Je voudrais rebondir sur quelque chose. En effet, je crois qu'il y a des mesures qui doivent s'imposer. Mais en fait, ma question et ma réflexion a changé depuis tout à l'heure. Et en fait, je m'aperçois d'une chose, c'est que on est capable de transgresser la loi, c'est-à-dire que l'institution publique transgresse la loi, à savoir loger des gens dans des éléments insalubres, dans des hôtels insalubres ou dans d'autres logements, mais en fait, il n'y a qu'une loi qu'on ne transgresse pas, c'est celle de la propriété. Alors qu'il y a une loi qui existe aujourd'hui, comme quoi s'il y a des locaux qui sont vacants, et le DAL en fait la démonstration quand même assez souvent, récemment j'ai vu boulevard de Charonne, des locaux EDF qui étaient envahis par le DAL, ils ont été virés immédiatement, alors qu'il n'y a personne dedans. Alors c'est ça qui est quand même incroyable.
La réquisition,
c'est-à-dire que je pense qu'on est en train de se couvrir sous prétexte de la loi, mais vous comprenez, il faut agir dans la légalité, alors qu'on agit déjà dans l'illégalité, dès lors qu'on loge des gens dans des hôtels insalubres. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que d'un côté, on se prévoit de la loi, et de l'autre côté, on la transgresse.
Ce que vous dites, c'est réagir...
C'est une urgence, si vous voulez. C'est une urgence. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi l'urgence sociale à loger des gens ne prévaudrait pas sur la loi de la propriété?
Ce que vous dites, Eric, je crois que ça faisait réagir la directrice du SAMU social. Vous
voulez intervenir ? Oui, simplement, on ne peut pas dire non plus que les opérateurs sociaux logent majoritairement dans des hôtels insalubres toutes les personnes en difficulté. On a mis nous-mêmes en place des dispositifs de visite, de mise en alerte des services concernés, en termes de sécurité, incendie, etc., pour que nous puissions d'abord vider ces hôtels quand c'est nécessaire de le faire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun hôtel insalubre avec lequel nous travaillons. Néanmoins, vous ne faites que transposer le problème ailleurs. C'est-à-dire que en même temps, évidemment, la réquisition peut se poser, on se pose tous la question, mais que devient-il de ces logements ou de ces bureaux vides? Le problème, c'est que maintenant, il y a une telle, je dirais, angoisse à l'idée de prendre le moindre risque autour du logement, notamment communautaire et collectif, que pour réhabiliter une structure d'anciens bureaux, un centre d'hébergement, moi j'en gère deux, et il faudra les réhabiliter assez rapidement, c'est 3 à 4 années de programme de réhabilitation pendant lesquelles il faut vider les lieux.
Vous ne pas les occuper. Ces actions un peu fortes.
Je ne suis pas contre, je pense qu'il faut parler des choses, chacun son métier, le DAL a un aspect militant, moi je gère un organisme parapublic, on a tous les deux des projets différents peut-être, mais on est confrontés aux mêmes réalités néanmoins.
Et que fait la ville de Paris pour les... dans ce domaine, pour la réquisition éventuelle de logements vides?
Nous préemptons 40 à 50 immeubles par an qui sont sur le marché. Là aussi, c'est un effort sans précédent.
Donc ça, c'est pas la même chose.
Oui.
Ça, c'est rare. C'est
en général,
c'est acheter des immeubles.
Oui, c'est acheter des immeubles, mais attendez, je crois que...
Et vous aviez logé des familles à un moment donné dans un gymnase dans le 7e arrondissement?
Nous avons...
C'est une manière aussi de trouver une autre solution.
Le DAL a fait envahir le gymnase du 7e arrondissement par un ensemble de familles. Ces familles sont sorties de ce gymnase sans pour autant être relogées immédiatement, car si je connais bien le DAL, nous travaillons beaucoup avec, l'action n'est pas l'axe prioritaire du relogement. Je crois que le DAL connaît les efforts de la ville de Paris en matière de logement sur tous ses aspects, pour toutes les populations, ils en sont conscients, et donc bien évidemment, quand on a une famille soutenue par le DAL, on a forcément une demande légitime d'un logement, c'est pas pour autant que nous sommes prioritaires. Néanmoins, par rapport à l'action des associations qui me semblent indispensables et qui ont secoué la collectivité française par rapport à la crise du logement. Je crois qu'ils auront joué un rôle majeur. Je vous annonce ce matin que nous achetons, la ville de Paris, l'immeuble de la rue de la Banque qui a été envahi par un certain nombre d'associations et nous transformons cet immeuble en logement social.
Et ça prendra combien de temps?
Écoutez, nous avons trouvé un accord avec les propriétaires dans la journée de hier. Donc l'OPAC de Paris va acheter cet immeuble, nous les transformerons dans les 2 ans à venir en 20 logements sociaux, c'est peu, c'est relativement important, symbolique, mais nous en sommes à ce type d'action et nous saisissons toutes les opportunités possibles à Paris pour faire du logement social dans cette
ville. Mais je vais peut-être dire une bêtise, Emmanuel, mais pourquoi plutôt qu'en faire des logements sociaux à long terme, pourquoi ne pas en faire tout de suite une hôtellerie sociale qui permettrait de vider les hôtels insalubres?
Parce que, monsieur, le produit n'est pas adapté à ce type de population, les lieux ne sont pas adaptés. Et vous savez, la ville de Paris a aujourd'hui sur son territoire, 115 km², une place de logement d'urgence ou de résidence sociale pour 400 000 habitants. Si toutes les villes de l'Île-de-France avaient la même proportion, même une place pour 1000 habitants, nous n'aurions plus de problème à gérer. Car il y aurait de la fluidité dans le marché pour permettre de trouver des solutions à la crise que nous traversons. Paris, à lui seul, ne pourra pas gérer la totalité de la précarité de l'Île-de-France.
Je vous propose, Stéphanie Paris-Galizy, sinon on va prendre la vue de Louis Bray.
En parlant de gestion de crise, le problème c'est qu'on a tendance quand même, et moi étant gestionnaire d'une structure de crise, à gérer les difficultés en situation de crise. Je regardais nos statistiques, depuis janvier 2007, on a géré 51 situations de crise, c'est-à-dire de sorties d'hôtels d'urgence, d'expulsions d'hôtels insalubres, de bâtiments insalubres. Donc est-ce que l'état des lieux maintenant est nécessaire? Vous parliez des publics, je pense qu'il faut partir des publics. Quel programme pour quel public? Ou avec quel appui, sociaux, médical, scolarisation, etc. Tant qu'on prend le problème en le gérant à la dernière minute et en situation de crise, on sera amené à utiliser des hôtels.
C'est souvent une maladie française.
Logement d'appui.
Louis Bray, en ligne toujours avec nous pendant toute l'émission. Je rappelle que vous êtes directeur d'une association qui gère donc des hôtels sociaux. J'avais juste envie d'avoir votre avis sur vos collègues, j'ai envie de les appeler comme ça, ceux qui possèdent donc ces hôtels insalubres. Est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même d'avoir des mesures de rétorsion contre ces personnes?
Alors moi je confirme ce qu'a dit Claire Lévy-Vroylan, c'est-à-dire que dans les hôtels sociaux de fait, c'est-à-dire dans lesquels se trouvent des gens en difficulté, il y a un grand nombre de gens très honnêtes et qui font leur boulot de leur mieux. Bon, et c'est vrai qu'il faut quand même le rappeler, moi j'en connais beaucoup.
Et pour ceux qui ne sont pas honnêtes, qu'est-ce qu'on pourrait faire contre ça?
Ben alors, la préfecture de police a un service d'inspection qui visite les hôtels de façon très régulière et qui exerce des pressions sur les hôteliers indélicats. Nous, on est très fréquemment visités.
Et puis il y a une liste noire, hein, d'ailleurs, qui a été établie à Paris.
Voilà. Alors nous c'est presque drôle, en fait, parce que nous, on est visités et on reçoit une lettre recommandée parce qu'il y a une écaille de peinture dans un plafond. Et c'est vrai que nous, on n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi les pressions ne sont pas exercées de façon plus
on laisse faire. Il y a un peu du laisser-faire.
Je pense pas, mais je pense que l'arsenal juridique n'est peut-être pas assez puissant. Et en même temps, c'est vrai que quand on a vu un hôtel très pourri et qu'on a décidé de le fermer, bah, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont dedans? Et c'est ça aussi qui rend
Beaucoup d'auditeurs ne comprennent pas ça. Fabienne à Alençon, on se demande aussi pourquoi les propriétaires de tels immeubles ne sont pas mis devant les obligations de faire des travaux alors qu'ils touchent des loyers, Jean-Yves Manon.
Alors, deux choses très concrètes de l'action de la ville de Paris sur le sujet. Car à force de dire qu'il y a des difficultés
de scandale... Ah, c'est la pub hein, de la mairie de Paris, c'est ça, hein.
Nous lançons l'opération publique, l'opération d'amélioration de l'habitat des hôtels meublés. C'est nouveau. Nous avons convaincu l'État de participer avec la ville de Paris à la revalorisation du confort et de la sécurité de ces hôtels. Nous avons un objectif de remettre à niveau une centaine d'hôtels à Paris, avec en conséquence une maîtrise de la facture pour les familles qui y sont et donc pour l'argent public. Il faut être clair, ou bien les hôteliers rentrent dans ce système, ils font des efforts nécessaires avec la ville de Paris, ou bien il est clair que la ville de Paris interviendra de façon beaucoup plus coercitive en faisant une déclaration d'utilité publique sur le bien. Ça veut dire qu'à une échéance de 2 ans, la ville de Paris deviendra propriétaire des lieux.
D'autant qu'il y a aussi les tribunaux, hein, on a vu quelques-uns de ces hôteliers condamnés.
C'est plus compliqué.
Stéphanie Pardy, juste pour indiquer que, effectivement, depuis les incendies il y a 3 ans, des listes circulent, ces fameuses listes noires, évidemment.
Et le rapport de la Cour des comptes.
Voilà, plus aucun de ces hôtels n'est exploitable, néanmoins, on le sait tous. Nous, quand nous vidons un hôtel, le lendemain, il est à nouveau utilisé par des personnes qui sont en grande difficulté, qui ont des
soucis moyens,
qui viennent par eux-mêmes, négocier, discuter avec l'hôtelier. Moi, j'en ai un à côté de chez moi qui est sans cesse plein et qui est défavorable depuis 4 ans. Plus personne, plus aucun opérateur social ne met des familles ou des personnes isolées. Néanmoins, il est plein. On est confronté à une urbanisation qui ne maîtrise plus non plus le flux des personnes qui sont en grande difficulté de logement.
01 45 24 7000. D'autres questions d'auditeurs dans un instant, juste après avoir écouté Daniel Lavoie. Isabelle Giordano, Yves de Caen, sur France Inter. Et malgré les regards,
Service public ce matin évoque le problème des hôtels meublés dans lesquels vivent des familles déshéritées. Et on parle surtout de la manière dont sont financés ces hôtels. On a parlé bien sûr de ces prix prohibitifs dénoncés par la Cour des comptes. Je voudrais juste revenir peut-être sur un point de détail. La facturation souvent se fait à la personne et non pas à la chambre, ce qui explique souvent justement ces tarifs incroyables. Pourquoi est-ce qu'on a établi les tarifs de cette manière-là? Bien sûr, c'est le propriétaire qui décide, mais est-ce que justement la ville de Paris, Jean-Yves Manot, ne pouvait pas décider au moins d'un autre système de facturation?
Non, bien évidemment, mais la logique voudrait que ça soit la chambre et non pas la personne. Sauf que nous sommes en... Le problème est le problème d'offre et de demande.
Que là encore, on a l'impression qu'on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'on est 4-5 dans une chambre, effectivement, on va payer très cher. Alors que normalement, dans le système habituel d'un hôtel classique, on paye la nuitée, on paye la chambre.
Mais là, je crois qu'on est dans des logiques encore qui sont parfaitement... illogique dans un sens, c'est-à-dire qu'on a une espèce d'empilement, si vous voulez, des dispositifs de financement, alors qui aide telle personne au titre de l'aide à l'enfance, qui aide telle personne à un autre titre, etc. Et puis finalement, il faut que l'hôtelier s'y retrouve. Et moi, je crois que ça a à voir tout de même avec ce virage du caractère social ou très social des politiques du logement qui ne correspond pas aux besoins, qui effectivement met sur le devant de la scène des financements importants et impressionnants qui existent, mais qui sont, encore une fois, à défaut de financer de véritables politiques du logement. Et je crois que si on veut regarder les raisons pour lesquelles, comme tout le monde le constate, ce scandale des familles à l'hôtel, je crois qu'il faut revenir sur la fabrication des clandestins, comment on se trouve face à gérer, effectivement, vos services se trouvent face à gérer tant de personnes en situation irrégulière, qui pour autant travaillent, pour la plupart. Il faut aussi faire mention des pratiques discriminantes des bailleurs, qui d'ailleurs le font pour des raisons qui leur appartiennent et qui ont aussi leur logique, des bailleurs, je veux dire, aussi bien publics que privés, et puis évidemment le chômage et la précarisation de la société. Donc on sort des hôtels, bien sûr, mais ce sont les hôtels qui sont visibles parce que le réceptacle de toutes ces questions qui les dépassent.
Une question de Fabien. Bonjour, Fabien.
Oui, bonjour.
Allez-y.
Alors, en fait, je suis un petit peu choqué par le propos qu'a tenu Yves Decamp tout à l'heure, envoyer ces gens-là en banlieue. Ça m'incite ensuite faire part d'une loi qui s'appelle la loi SRU, qui implique normalement 20%.
J'habite la banlieue, hein, je vous le dis tout de
voilà.
suite.
Voilà. Et puis c'est aussi parce que c'est moins cher qu'à Paris.
C'est pas la banlieue riche.
D'accord.
C'est parce qu'on manque de logements sur Paris. Et la dame dans le reportage disait, moi je voudrais bien aller en banlieue.
Elle disait qu'elle accepterait d'y aller si on le lui proposait.
Bah, bien sûr.
Mais en tout cas, 20% loi SRU, hein, 20% de logements sociaux dans chaque ville. Une ville comme Neuilly, par exemple, a, si mes souvenirs sont exacts, moins de 2% de logements sociaux. Donc je trouve que c'est un petit peu facile de critiquer les politiques qui sont menées à Paris, dans la mesure où Paris part sur un héritage historique en matière de logement qui n'est pas forcément le plus égalitaire, d'une part, et d'autre part, c'est aussi décontextualiser le problème, donc oublier que du logement social naît les politiques de mixité sociale, les politiques de de cartes scolaires, par exemple, dont on parle beaucoup aujourd'hui, etc., etc.
Beaucoup d'étudiants aussi, hein, visiblement.
Bon, là, mais là, on va pas engager la campagne des municipales.
On va faire une émission spéciale sur
le pas, on parle pas vraiment, c'est pas tout à fait la même
problématique.
Même,
hein, Fabien,
alors, on parle pas du logement social, on parle du logement d'urgence.
Juste un point sur les coûts à la nuitée et à la personne. Ouais. En fait, il faut parler aussi des familles et des personnes qui sont derrière toutes ces situations. L'intérêt, à l'époque, hein, quand on s'est posé la question du coût à la nuitée ou du coût à la personne, c'était de tenir compte de la personne, justement. Parce que au moment où les premières négociations ont lieu, moi je n'étais pas encore au SAMU social, c'était en 2000, on avait tendance à accumuler dans une chambre une famille nombreuse sans tenir compte de chaque individu. Là maintenant nous sommes obligés de respecter pour ce qui est de Paris le carton jaune, c'est-à-dire la capacité maximum par chambre, ce qui fait qu'aujourd'hui certains hôteliers se voient contraints, sous peine de ne plus travailler avec nous, de proposer 2, 3, 4 chambres à des familles nombreuses pour respecter ce carton jaune et ce tarif à la personne. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Nous, personnellement, ça nous permet de mieux mesurer les coûts et de mieux les anticiper. Néanmoins, ça demande aux hôteliers des efforts qui ne sont parfois pas prêts à faire. Donc, nous vidons à nouveau ces hôtels, donc ils sont à nouveau suroccupés.
Jean-Yves Malo, pour conclure rapidement.
Oui, pour conclure rapidement, je voudrais quand même lancer un appel à Mme Boutin, qui est ministre du Logement, pour être efficace. La prise en charge des familles par les propriétaires privés, ces derniers doivent bénéficier des déductions fiscales qui prend en réalité la réalité du montant du loyer parisien. Car offrir des déductions fiscales pour un loyer de 6 euros, nous ferons peu de propriétaires. Offrir des déductions fiscales pour des loyers de 16 euros qui sont proches du marché, oui, c'est un système qui peut marcher. Il suffit de prendre un décret, c'est dans les mains aujourd'hui.
Et pour être efficace, ce qui est sûr, c'est que les administrations pourraient travailler bien mieux ensemble qu'elles ne le font. C'est ce que la Cour des comptes aussi avait souligné. Hein. Chacun de son côté, c'est pas efficace.
On aura compris aussi que c'est un dossier très politique. Merci à Louis Bret d'avoir été avec nous pendant toutes ces heures et surtout de nous avoir éclairé sur les pistes et sur les solutions à envisager sur ce dossier. Merci à tous.
En rappelant le livre d'Alain Faure et de Claire Lévy-Roland, Une chambre en ville, aux éditions Créatrice, pour tout comprendre de l'histoire de ces hôtels meublés. Merci à tous.